Queiroz, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bonne pour le climat et pour le portefeuille. La rénovation énergétique en ces temps de hausse du prix du gaz et de l'électricité, il en sera question au congrès des HLM aujourd'hui. Alors que le compte à rebours est enclenché pour venir à bout des passoires thermiques, qui de Yannick Jadot ou de Sandrine Rousseau pour emmener l'écologie à la présidentielle? Suspense chez les Verts et verdict de la primaire en fin d'après-midi. La préférence nationale soumise au référendum, ça c'est Marine Le Pen qui présente son projet immigration aujourd'hui. Et vous recevrez tout à l'heure le président du Rassemblement National.
Jordan Bardella à notre micro avec Léa tout à l'heure dans le grand entretien. Amis auditeurs, appelez-nous 01 45 24 7000.
À la une aussi la Chine qui veut plus d'enfants et s'apprête à limiter l'avortement sans raison médicale. L'huile essentielle de lavande et la croisade des élus du Sud-Est à Bruxelles. Et puis des retrouvailles en Ligue des champions de foot, le PSG accueille Manchester City ce soir à Paris.
France Inter.
Plus 10% en juillet, plus 5% en août, plus 9% en septembre et du jamais vu pour le mois d'octobre, une hausse de près de 13% du prix du gaz pour les tarifs réglementés. Comme l'électricité va suivre, la tendance sera de deux choses l'une cet hiver, soit mettre des pulls, soit dépenser plus pour se chauffer, voire casser la tirelire quand on vit dans une passoire énergétique. Le gouvernement veut les éradiquer et propose toute une série d'aides aux travaux, aux propriétaires privés. Dans le public, c'est aux organismes HLM de s'en charger qui tiennent congrès jusqu'à jeudi. Un chantier vertigineux et difficile à financer. Illustration près de Lens, dans de petites maisons HLM fraîchement isolées, signée Claire Chaudière.
À Bully-les-Mines, Rosemonde attend de pouvoir réintégrer sa petite maison en briques rouges.
Je ne pouvais pas faire entrer les gens en parle de vin. J'étais obligée de mettre des cartons.
Logement HLM dont elle avait fini par condamner l'une des portes au rez-de-chaussée tant le froid s'y engouffrait.
Trop d'air. Alors j'espère après les rénovations que j'aurai plus de problèmes. J'ai hâte de repartir chez moi.
En dessous des chambres, c'est plein de verre et puis placo.
Monique et Daniel viennent de défaire leur carton dans un logement entièrement refait de l'intérieur.
Donc là aussi, ça a été isolé?
Ouais.
On diminue quasiment par deux la facture de chauffage. On a, sur l'échelle d'une dizaine d'années, 20 000 logements à réhabiliter.
Jean-François Campion est le directeur général délégué du bailleur social Maison et Cité.
On va faire en sorte de tenir les délais, tout en ayant quand même en vue que il va falloir des moyens pour le monde HLM. Ça se peut que ça puisse coincer, oui.
Timing serré et financement compliqué à boucler. À la tête de l'Union sociale pour l'habitat, Emmanuel Cosse interpellera tout à l'heure Jean Castex sur le sujet.
Il faut quand même dire que le logement a été totalement oublié, hein, puisqu'il représente même pas 0,1% du plan de relance. On le fera, mais ça va être difficile. Et ce qui est certain, c'est que si certains ont encore l'idée de ponctionner dans notre système économique pour alimenter le budget de l'État, par contre, là, on n'y arrivera pas.
Au total, plus de 250 000 logements sociaux sont à rénover d'ici 6 ans.
Car si les logements les plus énergivores ne sont pas rénovés, ils ne pourront plus être loués dès 2025 pour les pires d'entre eux classés G, puis à partir de 2028 pour les logements F. Et il n'y a pas que les prix de l'énergie qui grimpent. La tension du gouvernement aussi, parce que pouvoir d'achat en berne et campagne présidentielle, ça ne fait pas bon ménage. D'autant que la tendance, Yael Gauss, devrait rester à la hausse jusqu'au printemps et donc jusqu'à l'élection.
Attention, sujet sensible, on suit ça comme le lait sur le feu, confie un proche de Jean Castex. Retard à l'allumage, au contraire, on avait tout anticipé, répond Matignon. D'où le chèque énergie, 100 euros, qui sera distribué à près de 6 millions de Français. Autre amortisseur, le SMIC, qui augmente dès vendredi. L'énergie plus chère, c'est un mauvais signal à l'approche de l'hiver, mais aussi une bonne nouvelle, relativise le député En Marche Roland Lescure. Il préside la commission des affaires économiques à l'Assemblée.
La bonne, c'est que le monde va mieux, la croissance est de retour, le chômage baisse, donc la demande pour l'énergie augmente. Puis la moins bonne, c'est que les enjeux d'approvisionnement, la Russie, etc., font qu'il y a une tension. Donc on va continuer, s'assurer que les plus démunis ont de l'aide directe, ça c'est le chèque énergie, continuer avec la prime d'activité, continuer avec la baisse des impôts. C'est une préoccupation de toujours, elle est évidemment particulièrement présente maintenant.
Le pouvoir d'achat, sujet déjà au cœur de la campagne présidentielle. Le Parti communiste veut nationaliser EDF et Engie pour fixer les prix. À la France insoumise, blocage des tarifs des produits de première nécessité, plus 10% de salaire net chez Valérie Pécresse et Nicolas Dupont-Aignan en baissant les charges salariales. Grande vigilance du côté de l'exécutif, marquée par la révolte des Gilets jaunes. Si en 2022, cette inflation croissance poursuit, indique Matignon, alors on réajustera.
Yael Gauze, eux, imaginent une France sans énergie fossile, totalement indépendante et qui n'émettra quasiment plus de gaz à effet de serre. La transition énergétique à l'horizon 2050, selon les Verts, chacun sa méthode pour y arriver. Et ce soir, il n'en restera qu'un ou une pour porter son projet à la présidentielle. Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau, fin du deuxième tour de la primaire et résultat attendu à 17h30. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Avec vous, on va envisager les deux options. D'abord, une victoire de Yannick Jadot dans cette hypothèse. Comment le parti envisagera la suite ?
Alors, si c'est Yannick Jadot, c'est plus facile. Il a fallu d'ailleurs moins de 24 heures à la direction écolo, plus portée au départ sur Éric Piolle, pour se ranger derrière l'eurodéputé. Jadot vainqueur, c'est une notoriété déjà construite et surtout la possibilité d'un rapport de force avec le PS en vue des législatives. L'écologie de gouvernement qu'il défend est certes bien plus offensive que celle des socialistes, mais il n'y a pas d'incompatibilité majeure. Surtout, tous voient le candidat supplanter Anne Hidalgo dans les sondages et beaucoup croient qu'elle n'ira pas jusqu'au bout. Yannick Jadot pourrait ainsi récupérer cet électorat de centre-gauche et mordre aussi sur celui d'Emmanuel Macron.
Et si c'est Sandrine Rousseau qui l'emporte, Laurence ?
Là, c'est plus compliqué. La candidate se méfie du parti, qui le lui rend bien. Sandrine Rousseau a fondé toute sa campagne sur la radicalité, la disruption et à la surprise générale, l'électorat de la primaire, qui a soutenu la décroissance de Delphine Bateau ou l'ISF climatique d'Éric Piolle, semble plus en phase avec cette écologie de rupture. Mais une victoire de primaire n'est pas un premier tour de l'élection présidentielle. Les écologistes, qui avaient choisi Benoît Hamon en 2017, en savent quelque chose.
Laurence Perron est verdict à 17h30 pour ce second tour de la primaire chez les Verts. Quand le Royaume-Uni prépositionne l'armée pour conduire des camions, le gouvernement veut rassurer sa population qui s'est précipitée ce week-end dans les stations-service, dont certaines n'étaient plus approvisionnées faute de chauffeurs routiers disponibles pour acheminer l'essence et le gasoil des camionneurs restés au pays en Europe à cause du Covid et du Brexit.
Il est 8h07, qu'il paraît loin, Florence, le temps où la Chine interdit disait de faire plus d'un enfant.
Et oui, au printemps dernier, Pékin en autorisait 3 par couple parce que la population vieillit plus vite que prévu. Et hier, ce sont de nouvelles directives que le gouvernement a publiées pour limiter les avortements sans raison médicale. À Pékin, Stéphane Pambrin.
C'est un revirement complet après 40 ans d'une politique de l'enfant unique menée avec zèle et qui a conduit à des avortements forcés pour les femmes qui avaient plus d'un seul enfant. Plus de 330 millions d'avortements ont été pratiqués en Chine pendant cette période. Mais cette politique a eu pour effet pervers de creuser un profond déséquilibre entre hommes et femmes, avec une élimination sélective des embryons de sexe féminin. Moins de filles que de garçons et surtout pas assez d'enfants. En 2016, la politique de l'enfant unique a donc été supprimée, mais sans effet sur la natalité qui est au plus bas depuis la création de la République populaire. Depuis cette année, le gouvernement veut à tout prix relancer la natalité, mais les aides financières ne sont pas suffisantes et il a donc décidé d'interdire les avortements hors raison médicale. La Chine avait légalisé cette pratique en 1953 et dans les années 80, 56% des femmes y avaient recours. Elles sont aujourd'hui près de 20% à se faire avorter, notamment les jeunes qui ont des relations sexuelles avant le mariage. Pékin, Stéphane Pambrin, France Inter.
20% des femmes chinoises ont donc recours à l'avortement sans commune mesure avec ce qui se passe en France, où moins de 15 femmes pour 1000 ont avorté en 2020, chiffre en baisse. 11 000 avortements de moins, sans doute en raison d'une baisse des conceptions pendant le premier confinement, selon la DRES qui publie ses statistiques. En France, le ministère de l'Éducation veut tester un nouveau protocole dans les écoles, ne plus fermer toute une classe si un élève est positif, mais tester tous les élèves et renvoyer chez eux uniquement ceux qui seront contaminés, comme leur commande le conseil scientifique. On ne sait pas encore où se fera l'expérimentation et à quelle échelle. Et puis un vaccin dans chaque bras, la grippe d'un côté, le Covid de l'autre, c'est possible et sans danger, selon la Haute Autorité de Santé, qui recommande la double vaccination quand le vaccin contre la grippe arrivera le 26 octobre, pour éviter à ceux qui en auraient besoin de perdre du temps entre deux injections. Et puis Sanofi l'annonce à l'instant, la recherche sur son vaccin ARN messager a pris trop de retard. Le laboratoire français va donc arrêter son développement. La justice en costume cravate, on s'intéresse aujourd'hui aux enquêtes fiscales avec cette disposition du projet de loi sur la confiance en l'institution judiciaire votée avant l'été à l'Assemblée et qui fait hurler les enquêteurs. Il s'agit de sacraliser le secret professionnel des avocats. Ceux qui s'y opposent, de la police au parquet national financier, espèrent que le Sénat va l'annuler, Emmanuel Leclerc.
Il suffirait, disent les enquêteurs financiers, que l'avocat soit en copie de tous les échanges d'informations au sein d'une société pour bloquer la moindre saisie de documents en perquisition. Philippe Bock, enquêteur aux douanes et secrétaire général adjoint du syndicat solidaire Finances Publiques, n'en revient toujours pas.
On pourra constater assez vite qu'il y a un mail de l'avocat, un document de l'avocat. Ce sera une forme de totem d'immunité qui sera agité devant nous. Alors, il existe des moyens de passer outre, mais ils sont tellement durs que dans la pratique, on va se retrouver très rapidement coincé.
Une disposition qui s'ajoute à la présence possible de l'avocat lors de ces perquisitions si sensibles et qui a donc provoqué un tollé dans tous les services d'enquête. Pour Olivier Cousy, le bâtonnier de Paris, ce renforcement du secret des correspondances est pourtant une protection dont bénéficient les avocats de tous les grands pays démocratiques.
Dire que tel ou tel texte fait pencher dans le sens de la protection injustifié ou illégitime des avocats qui seraient susceptibles de faire des montages, qui seraient susceptibles de commettre des infractions, c'est une simplification qui n'est pas exacte.
Olivier Cousy et ses équipes ont bien vu les contre-amendements déposés au Sénat ces derniers jours. Ils espèrent juste qu'au final, les parlementaires, députés et sénateurs s'entendront sur un texte équilibré qui satisfasse avocats et enquêteurs spécialisés dans la délinquance en col blanc.
Emmanuel Leclerc, c'est le sujet qui fait parler depuis des mois dans les régions qui produisent de la lavande. Persuadé que l'Europe veut interdire l'huile essentielle de lavande et l'inquiétude des producteurs est largement relayée par les élus. Le président de la région PACA, Renaud Muselier, a payé ce week-end une pleine page dans le journal du dimanche. Et aujourd'hui, c'est le député LR du Vaucluse, Julien Aubert, qui se rend à Bruxelles pour défendre la filière. 9000 emplois en dépendraient. Bruxelles, où l'on se veut rassurant, Angélique Bouin, pas la peine de s'inquiéter autant.
Pour la Commission, il n'est pas question d'interdire les huiles essentielles de lavande, ni même d'imposer des analyses de chaque composant. Ce qui est dans les tuyaux, en revanche, c'est d'actualiser la liste des produits chimiques, naturels ou de synthèse, considérés comme dangereux pour la santé. Or, les huiles essentielles contiennent des composants naturels dont certains sont toxiques. Certains composants de la lavande sont par exemple allergènes. Les producteurs redoutent donc qu'une classification sans nuance en produits dangereux ne menace leur filière. Mais ils crient au loup, selon plusieurs sources européennes, qui imaginent sérieusement que Bruxelles va désavantager les produits naturels au bénéfice de produits chimiques chinois, s'indigne même un fonctionnaire. À ce stade, rien n'est décidé. L'impact économique dans les différents secteurs des huiles essentielles sera analysé. Il peut bien évidemment y avoir des dérogations, précise la Commission. Reste une incompréhension du côté de certains producteurs. Pourquoi maintenir les huiles essentielles dans la catégorie générale des produits chimiques? Si l'Europe nous avait dès le départ distingué des produits de synthèse, dit l'un d'eux, nous n'en serions pas là. Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
Et le bleu lavande sera-t-il à la mode en 2022? On verra ça à Paris ces jours-ci puisque la Fashion Week a commencé hier soir. Dior au Jardin des Tuileries, Vuitton au Louvre, Yves Saint-Laurent au Trocadéro, Chanel au Grand Palais éphémère. C'est donc le retour des défilés en chair et en étoffe. Et non, Agnès Soubiran, la crise sanitaire n'a pas tué ces grands rendez-vous de la mode.
La crise sanitaire a mis en évidence le côté obscur des Fashion Week, cher à organiser avec un bilan carbone désastreux et une frénésie très monde d'avant. Certaines maisons, comme Yves Saint-Laurent, en ont d'ailleurs profité pour quitter le calendrier officiel avant d'y revenir cette semaine. Un retour qui sonne comme une évidence pour Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.
De manière naturelle, les grandes maisons sont toutes présentes et sont revenues dans la Fashion Week. Parce qu'on est dans un retour à un univers non pas normal, parce que ça occulterait, dire normal, ça occulterait le fait de souligner qu'il a été transformé avec la présence du digital qui reste forte.
Le digital a bien fonctionné, effectivement, pour les grandes marques, mais les défilés restent essentiels. Un constat partagé par Arnaud Vaillant, cofondateur de la jeune marque parisienne Coperni.
Tous les créateurs se sont posé la question un jour ou l'autre, c'est évident, c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'autre et en fait, c'est le meilleur exercice. Le défilé, c'est la consécration, enfin, c'est un moyen exceptionnel de raconter son message à tout le monde d'un coup. Et après, derrière, on enchaîne avec le showroom. Il y a toute la logique derrière de business qui est vachement importante. Mais c'est un moment extrêmement important, unique et indispensable.
Quelques maisons ont quand même fait le choix du 100% digital. C'est le cas de la jeune créatrice Marine Serre, mais aussi d'Agnès B, Céline ou encore Nina Ricci.
Et ce soir, ce sera du bleu contre du blanc. Le PSG contre Manchester City au Parc des Princes. Deuxième journée de Ligue des Champions et un match en forme de retrouvailles après la défaite imposée aux Parisiens par les Anglais en demi-finale l'an dernier. Le PSG part donc avec pas mal de pression, d'autant que son entrée dans la compétition il y a 15 jours face à Bruges n'a pas été franchement formidable, un match nul. Les supporters de City, de leur côté, ne sont pas du tout inquiets. Et ça, notre correspondant Richard Place l'a bien constaté.
Les restrictions, c'est terminé. Ils peuvent retourner au stade et au pub aussi. C'est donc autour d'une pinte que se retrouvent ces fans de City. Ils passent en revue l'effectif de Paris pour voir qui ils aimeraient recruter.
Marquinhos. Good player.
Oui, bon joueur.
Mbappé, of course. I'm not sure about Neymar.
Neymar, pas sûr.
Messi, maybe 2 years ago.
Messi, il y a 2 ans, j'aurais aimé le voir à City. L'armada du PSG ne les effraie pas. Il faut dire que leur équipe a fière allure également, avec un début de saison impressionnant, une victoire à Chelsea le week-end dernier et un premier match de Ligue des Champions qui se termine par une victoire 6-3 contre Leipzig. En 29 ans, Arni n'a raté aucun match à domicile de son club, quelle que soit la compétition. À l'extérieur, une poignée seulement. Mais ce soir, il ne sera pas au Parc des Princes.
Pour être honnête, les supporters du PSG ne sont pas exactement les personnes les plus sympas que nous ayons rencontrées. Quand on va quelque part, on veut aussi profiter de la vie. Je ne veux pas être sur mes gardes tout le temps, j'ai 59 ans. J'ai pas envie qu'on me jette des trucs dessus.
Alors cette rencontre, ils vont la suivre au chaud, dans leur pub favori, persuadés que leur équipe va ramener au moins un match nul. Londres, Richard Place, France Inter.
Eh ben on verra ça ce soir à partir de 21h.
Merci.
Les supporters du PSG apprécieront.
Merci Florence Paracuelos. Marie-Pierre Planchon, la météo.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Et quelques grisailles matinales, Marie-Pierre.
Eh oui, Nicolas, la perturbation d'hier, en fait, a laissé de l'humidité qui s'incruste encore des Ardennes au Jura, descendant sur le Val-de-Saône, le Lyonnais, le nord des Alpes. Mais le soleil sera de retour après la dissipation de ces brouillards et de ces grisailles. Sur les autres régions, bien, c'est le retour d'un temps calme et sec avec de très belles éclaircies, excepté sur la pointe bretonne, où le ciel est en train de se charger de cumulus, donnant des averses accompagnées d'un bon vent de sud-ouest. Et les températures repassent en dessous des 10 degrés ce matin, surtout sur la moitié nord, au plus bas, 3 à Aubusson, 5 à Beauvais et à Bourges, 6 en Lozère, 8 à Lille, 10 à Paris et Lorient, mais 19 à Marseille et 21 au Cap-Corse.
Et l'après-midi, plutôt ensoleillé.
Oui, on va retrouver de très belles éclaircies sur les trois quarts du pays, un beau soleil autour de la Méditerranée, mais les averses et le vent arrivés sur la Bretagne ce matin vont gagner la Normandie et les côtes de la Manche en journée, avec du vent, qui annonce donc une perturbation pour demain. Et en journée, on va perdre 1 à 5 degrés, 17 à Brest et à Charleville-Mézières, vous aurez 18 à Clermont-Ferrand, hier il y avait 25 quand même. Vous aurez 19 à Rouen, à Lille, à Strasbourg, 20 à Paris et Lyon, 21 à Nantes, comptez 23 à Toulouse, 25 à Montpellier, 26 à Aix-en-Provence et Perpignan et 27 à Ajaccio. À tout à l'heure.
Merci Marie-Pierre, à tout à l'heure. France Inter, 8h17.